Ben bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle prédication ce soir à Victoriaville le 14 août chez JP Chabot. Et puis ici présent, on a JP, on a Hélène, Marilyn et moi-même et on est très content d'être ici ce soir et on est très honorés de pouvoir étudier la parole de Dieu librement. Et puis on va remettre ça au Seigneur si vous voulez. Merci Seigneur du privilège qu'on a de pouvoir être ici et étudier ta parole ensemble. D'être libre pour se délecter dans ta parole, Seigneur. Puis ce soir, on te demande de vraiment, par ton Saint-Esprit, venir te donner tes révélations. Puis venir nous enseigner dans nos cœurs, venir écrire dans nos cœurs ta parole. Et puis venir nous donner tes révélations pour le nom de ton Fils Jésus, pour que quand on marche, le nom de ton Fils Jésus soit reflété dans nos vies, Seigneur. Et on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, on a vu la semaine passée, on a commencé à avoir une série de prédications qui était sur « Marcher selon l'Esprit ». Vous en souvenez-vous? On a vu qu'il y avait la Bible classait trois hommes, trois sortes d'hommes, ou d'hommes ou de femmes. Quand on parle d'hommes, on parle aussi de femmes en général. Et puis, on a vu qu'il y avait l'homme animal ou naturel, il y avait l'homme charnel, et puis il y avait l'homme spirituel. L'homme animal, c'était celui qui ne connaissait pas Dieu. L'humain là qui a jamais connu Dieu puis qui a jamais accepté le Seigneur. Et puis la Bible dit que lui la prédication c'est de la folie pour lui. Puis les choses de Dieu c'est complètement fou, on voit ça dans 1 Corinthiens 1:18 à 1:24 où qui dit où que le Seigneur dit qu'il a vraiment choisi de confondre les sages, les intelligents de ce monde. Et puis il dit, j'ai choisi la folie de la prédication. Puis j'ai fait exprès pour mon bon plaisir. J'ai fait ça vraiment pour les confronter. Pour dire regardez, vous pensez bien intelligent là, mais la Bible dit de ces gens-là que ce sont des bêtes. Ce sont des animaux. On est des bêtes. Ben, plus toi maintenant, là. Toi, t'as reçu Jésus-Christ, puis l'Esprit de Jésus-Christ. Mais les gens qui croient pas et qui n'ont pas le Seigneur, la Bible les classe comme des animaux. Ce sont des animaux du niveau spirituel. Ils ne peuvent pas connaître les choses de Dieu. Ils ne peuvent absolument pas être enseignés en lisant la parole de Dieu. Ils ont la sagesse de Dieu pour être. Ils sont capables de lire. Ils ont la sagesse de pas la sagesse de Dieu, excusez, ils ont la sagesse humaine. Ils sont capables de lire les mots. Mais ils n'ont pas la révélation de l'Esprit, fait qu'ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils sont pas capables de comprendre ce qu'ils lisent. Après ça, on a vu l'homme charnel. Et puis, on a vu qu'il y avait deux classements dans les gens sauvés. Dans les inconvertis, il y a juste un classement, l'homme est animal, point final, c'est fini. Mais dans les gens convertis, il y avait deux classements. Il y avait l'homme charnel, il y avait l'homme spirituel. Et on a vu que l'homme charnel, c'était celui qui résistait pas aux envies, qui était envieux, et puis qui favorisait ou qui encourageait les disputes, la jalousie. Et puis c'est même à cause de ces gens-là qu'il y a des divisions d'église. C'est intéressant quand on... Ouais. C'est intéressant quand on entend ça, quand on voit ce que... Et puis... On dit que c'est des enfants qui sont des enfants en Christ. L'apôtre Paul dit que ce sont des enfants en Christ, donc ce sont des gens sauvés. Mais ils sont au lait. Ils sont pas capables de prendre l'enseignement. Ils sont encore au lait. Et puis ces gens-là, ils sont souvent mêlés dans des disputes. Ils sont souvent en arrière des choses, des soulèvements, c'est ça. C'est des gens qui sont sauvés, mais qui continuent de marcher dans le monde. On voit ça souvent dans des nouveaux croyants. Ou des gens qui ont décidé d'accepter Christ parce que ce qu'ils ont entendu, ça les a touchés, mais peut-être pas ou ils sont pas capables encore. Mais Dieu est son plein parfait. Hein? Fait qu'il va nous prendre chacun ce qu'on est rendu. Il va nous amener un petit peu plus loin. Et puis... On disait que le péché des gens, quand on parlait des divisions, que ces gens-là souvent sont en arrière de ces divisions-là dans les églises, et le péché qui était signalé, que l'auteur disait ici, M. Schaeffer, il disait le péché qui est signalé ici est celui du croyant qui suit des conducteurs humains. C'est donc le croyant qui n'est pas capable de faire la part des choses. Le croyant que même si on lui a dit d'obéir à ses conducteurs, on lui a dit qu'on lui a lavé le cerveau, on a vu ça dans certaines églises, hein? Je parle pas, puis je nomme pas de nom. Sauf que on voit ça, que on se fait au pupitre, il y a l'autorité avec un grand A qui est prêché. Et puis si tu as le malheur de contester ça, tu es un leader naturel, tu es un négatif, tu es un... Et puis, on voit que ça, c'est tué tout de suite dans l'œuf. On tire avec un 12 là-dessus. Et puis ça fait des croyants qui expérimentent rien parce qu'ils suivent des hommes. Ils suivent... c'est pas le cœur de Dieu, ça. De toute façon, ce qu'on vient de dire là. Et puis, c'est pas le cœur de Dieu qu'on voit ça dans son Église. On voit ça à nulle part dans la Bible. On voit qu'il y a des gens qui ont été repris, mais ils étaient grandement dans le péché. Et un beau-père avec... je pense un beau-fils avec sa belle-mère, qui était avec sa belle-mère, là, ce que Paul disait. On voit que ces gens-là ont été repris, mais on voit pas de cette autorité-là prêcher avec un grand. Oh oui, on dit obéissez à nos conducteurs, sauf qu'on dit que nos conducteurs, ils doivent être des exemples pour nous autres. Fait que, faut mettre en pratique qu'est-ce qu'on dit. Et puis, on voit souvent ce qui arrive, ce que ça a comme effet, c'est que ça fait des chrétiens qui, à un moment donné, sont assis, ils disent plus rien, parce que quand ils disent quelque chose, ils sont perçus comme des gens négatifs. Ils sont perçus comme des gens qui sont pas spirituels, puis qui obéissent pas à le conducteur, puis qui sont pas soumis à l'autorité, puis blabla, puis blabla, puis blabla. Fait que, puis même, l'esprit va leur parler, mais ils vont choisir de pas écouter l'esprit pour écouter ces gens-là. C'est ça que l'auteur dit ici. Il dit, c'est le péché qui est signalé, c'est celui du croyant qui suit des conducteurs humains. Hey, t'as reçu l'esprit, toi. T'es supposé d'être capable de faire la part des choses, de ce que tu vois, de ce que tu entends. Puis c'est pas vrai que t'as pas le droit de rien dire, puis c'est pas vrai que t'as pas le droit de parler, puis c'est pas le cœur de Dieu non plus. Fait que on voyait que ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont charnels, c'est des gens qui commencent, et puis qui n'ont pas développé leur relation encore avec Jésus-Christ. Parce que le Père, on sait, on l'a vu dans nos positions, le Père, il veut une relation de père-enfant. Avec nous, hein, on a vu ça, l'imposition. C'est le Père, puis nous autres, on est ses enfants, puis il veut cette relation-là avec nous. Il veut pas qu'il y ait un homme entre nous autres et lui. Ben, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de prédicateurs, parce que je prêcherai contre eux. Il y a des gens qui ont des appels pour prêcher la parole de Dieu, mais il doit pas avoir personne qui se mette entre toi puis ton Père. Il y a absolument personne qui peut, puis ça attriste beaucoup le Seigneur, parce que le Seigneur, il veut une relation personnelle avec nous. Mais il veut aussi qu'on marche dans l'ordre dans sa maison. Il y a une certaine ordre qui est donné dans la Bible, dans son corps. Puis c'est pas normal qu'il y ait du désordre non plus. Donc, il doit savoir quand même aussi une ordre dans l'Église. C'est correct qu'il y ait une ordre dans l'Église, puis qu'il y ait une façon de se conduire qui respecte la parole de Dieu. Mais c'est correct aussi que tu sois capable d'avoir une relation personnelle avec le Père. Qu'il n'y ait pas personne qui se mette entre les deux pour te dire comment tu dois avoir cette relation-là. Tu dois apprendre à marcher avec l'esprit. Et puis, on nous donne, la Bible nous enseigne là-dessus, comment c'est ça qu'on étudie. Et puis, dans cette prédication aujourd'hui, on va voir, tout pour la révision de l'homme charnel et de l'homme naturel. On a assez parlé de ceux-là. C'est pas ceux-là qui nous intéressent, mais c'est bon de se le savoir que ça existe. Mais on va parler aujourd'hui, on va commencer à parler de l'âme spirituelle. Ben l'âme spirituelle, c'est ça qu'on tend, nous autres. Hein? On veut tendre à être des gens spirituels. Et puis, je donne ça à tout le monde. Maintenant, pour pas faire de jaloux. Ben vous avez pas besoin de prendre de notes. Ça veut pas dire que si vous avez pas vous avez de l'inspiration que vous pouvez le marquer, c'est à vous autres, en vous en allant. Et puis au début, j'ai juste rappelé les versets dans lesquels on s'était basé, puis on va les relire ensemble, dans lesquels cette étude est basée, 1 Corinthiens 2:9 à 1 Corinthiens 3:4. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous savons, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Celle-là, on l'avait déjà. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Donc, quand on n'avait pas l'Esprit, on les connaissait pas. C'est impossible. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Comprenez-vous? Il dit l'homme spirituel, il a la pensée de Christ. Donc, c'est qui va aller l'enseigner? Qui de nous autres qui va aller enseigner l'homme spirituel? Personne. Parce qu'il a la pensée de Christ. C'est ça que ça dit, ça. Et puis, attendez, je vais reprendre où je suis rendu. 1 Corinthiens 3.1 « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », l'autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? » Et puis, je tape un peu pour se rafraîchir, là, parce que je vais parler, puis je vais dire au verset 10, au verset 9, qu'on soit capable de se situer dans le... Excusez, j'ai pris une petite gorgée, parce que là, je commençais déjà à avoir la gorge sec. Donc, l'homme spirituel. Ça y est, on tombe dans le gras. La seconde classe des croyants dans ce passage est celle de l'homme spirituel. Son caractère est démontré par sa capacité de recevoir et de reconnaître et de connaître la révélation divine. L'homme spirituel juge de tout. C'est pour ça qu'il dit qui va aller l'enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui l'enseigne. Regardons l'ordre progressif de tout ce contexte-là. Premièrement, la révélation divine est maintenant donnée. Elle concerne des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Elle est révélée par l'Esprit. On voit ça au verset 9 et 10. Deuxièmement, la révélation, c'est la révélation des profondeurs de Dieu qu'aucun homme ne connaît. Cependant, l'Esprit les connaît. Verset 10, c'est ça qu'on voit. Troisièmement, les croyants ont reçu l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu afin qu'ils puissent aussi les connaître. On voit ça au verset 12. Quatrièmement, la sagesse est cachée dans les paroles mêmes du livre de Dieu. Le livre de Dieu, c'est la Bible. Mais le contenu spirituel de ces paroles n'est compris que lorsque l'homme est capable de comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Verset 13. Cinquièmement, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comparer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il n'a pas reçu l'Esprit qui vient de Dieu. On voit ça au verset 14. Un chrétien charnel est né de nouveau et possède en lui l'Esprit. Mais son état charnel empêche le plein ministère de l'Esprit. On voit ça dans les versets, dans le chapitre 3, 1 à 4. Les versets 1 à 4. Septièmement, l'homme spirituel juge de tout, de toute chose. Aucune limite ne lui est imposée dans le domaine des choses de Dieu. Il peut librement recevoir la révélation divine et se délecte en elle. Ça vous dit quelque chose, se délecte en elle, hein, quand on reçoit une illumination, quand le Seigneur vient illuminer notre cœur, hein, on est tellement béni, qu'il vient nous donner une compréhension. Lui aussi peut entrer, comme tout autre homme, dans les sujets qui sont communs à la connaissance humaine. Il est capable aussi de rentrer dans la connaissance humaine, mais il y a aussi un côté qui est spirituel. Il juge de toute chose, cependant, il n'est lui-même jugé ou compris par personne. Parce qu'il a la pensée de Christ. Donc, il n'y a personne qui peut venir l'homme qui est spirituel, l'homme qui marche avec l'Esprit, il n'y a personne qui peut venir le reprendre. Parce qu'il a la pensée de Christ. C'est ce que la Bible dit, ça. Comment s'en serait-il autrement puisqu'il a la pensée de Christ? On voit ça au verset 16. Donc, on a vu, il y a deux grands changements possibles à l'expérience humaine. Le passage de l'homme de l'état naturel à l'état charnel, et le passage de l'homme à l'état charnel à l'homme spirituel. Le premier est opéré par Dieu. À partir du moment que la personne confesse avoir la foi en Jésus-Christ comme son sauveur. Le deuxième s'accomplit à mesure qu'il y a ajustement avec l'esprit. Le deuxième, c'est vraiment l'esprit qui s'ajuste avec notre marche chrétienne. Et puis ça va dépendre de la sorte de vie qu'on mène. Et puis, la consécration qu'on est prêt à mettre, avoir une vie consacrée pour Jésus-Christ, à ce moment-là, le prix de l'esprit va prendre de plus en plus de place. Il se peut que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur comme son sauveur, entre immédiatement dans une vie consacrée. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi, parce que moi, j'étais comme sur le point de partir. Tu sais. Ça m'intéressait plus de rester. Fait que quand j'ai accepté le Seigneur, tout de suite, moi, c'était ça. Ou c'était « je m'en retourne ». C'était la vie consacrée. Fait qu'il n'y en a pas eu de... Bon, je pense qu'il y en a eu un pareil, un ajustement. Là. Il y a toujours des choses qui... Mais ça n'a pas été long. Tu sais, que là, j'ai tout vendu, puis j'ai tout vendu mes affaires, puis j'ai vraiment consacré ma vie à l'Écriture, puis à apprendre à suivre Jésus-Christ. Puis ça arrive. On prend pour exemple Saul de Tarse. C'est qui ce Saul de Tarse? C'est qui? C'est Paul. C'est Paul. Hein? Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Il dit « Qui es-tu, Seigneur? » Il s'en doutait un peu, hein, que c'était quelqu'un de grand qui était en train d'y parler. Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Savez-vous ce que ça veut dire « régimber » ou « régimber » C'est pas « régimber », c'est « régimber hein, », selon la loi de la grammaire. Contre les aiguillons. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est quoi des aiguillons? Ouais, mais c'est quoi que ça voulait dire? C'est quoi cette image-là? Les aiguillons. Régimber contre les aiguillons. C'est quand il y avait des paires de bœuf dans le temps. Ils mettaient des bouts de bois affilés. Affilés très pointus chaque bord pour pas qu'ils se tournent la tête. Et puis ça, c'était pour qu'ils marchent droit quand ils faisaient leur rang. Et puis ça, ils appelaient ça des aiguillons. C'est comme des aiguilles. Fait que ça aiguillait les bœufs à marcher droit. Et puis le Seigneur, il dit, à quoi tu servirais de régimber contre les aiguillons? C'est par là que tu vas aller. Tu sais? Et puis, c'est le fun que si vous connaissez, si vous voyez pas l'image, que je vous explique c'est à quoi l'image. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça vaut soi, Marilyn? Et puis, on change de page. On voit qu'est-ce qu'a dit Paul. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis Jésus que tu persécutes. Tu vois-tu, encore une fois, que ça n'a pas rapport à l'homme? Jésus, il a choisi cet homme-là. C'était le pire de la gang. Lui, il tuait les chrétiens. Lui, il a tenu le linge du monde qui ont lapidé Étienne. Le prophète Étienne. Lui, il était pharisien. Et lui, selon la loi, il y avait aucun, on va voir ça plus tard, Paul, il avait absolument rien à se reprocher par rapport à la loi. Il avait toujours à faire ses sacrifices. Il était un des premiers dans le sang des reins. Il était pas un des premiers, mais très, très haut placé, puis il avait une position dans le sang des reins. Fait que lui, il avait la conviction d'être bon chemin. Et puis Jésus, il est venu le chercher. Fait que c'est rien que pour te dire que ça n'a pas rapport à nous autres, pantoute. Ça n'a pas rapport au mérite humain, pantoute. Jésus, il prend les pires, la gang. Justement. Regardez-moi. Et puis, il prend les pires, la gang. Pour justement, il n'y a pas personne qui se glorifie par rapport à ça. Puis l'homme étant ce qu'il est, on en voit encore un coup quand on a commencé. Il semble d'orgueil, puis, tu sais. Ben, Paul, il a écrit le trois quarts du Nouveau Testament. Non, ça, c'était à Pentecôte, là. On va le voir, ça aussi. Tu parles quand il y a eu 3000 personnes de convertis, là. Ouais, c'est quand le Saint-Esprit est descendu, on va voir ça. Il y avait des langues de feu, là. On va voir une belle... Moi, ça m'a fait un clin d'œil, en tout cas, quand j'ai découvert ça en étudiant ça. On va voir ça ensemble. Mais nous savons par expérience qu'il n'en est pas de même pour tout le monde. Paul il a répondu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis là, lui, c'était réglé. Mais on va te suivre, tu sais. Et puis, il y a donc un changement possible de l'état charnel à l'état spirituel. Mais il y a une décision. Il faut que tu prennes une décision. L'homme spirituel est l'idéal divin dans la vie. Le ministère de puissance avec Dieu, avec l'homme, marchant selon l'Esprit, est une suite de bénédictions ininterrompues. Notre but est de découvrir ensemble comment y arriver. Amen. Le ministère de l'Esprit. C'est quoi le ministère de l'Esprit? On va regarder ça. C'est bon d'étudier toutes ces choses-là. Moi, je suis pas à l'écran, je suis sur mon papier, là. Ça va être correct, je pense. Le ministère de l'Esprit. Un chrétien est un chrétien en vertu de sa juste relation avec Christ. Mais l'homme spirituel est en juste relation avec l'Esprit en plus de sa relation avec Christ. On voit la différence. Un chrétien, à peine une minute que tu acceptes Christ, tu deviens chrétien. La spiritualité, ça vient que ta relation de chrétienté est avec Christ, ce que Christ a fait pour toi. Mais ta spiritualité va dépendre de ta relation que tu as avec le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, qui est la partie de Dieu qui est en nous. Le stratagème de l'ennemi, c'est de créer de la confusion dans l'œuvre de l'Esprit. Et cela est manifesté parmi les croyants les plus sérieux et les plus pieux. La qualité de vie du croyant est une importance capitale devant Dieu. Son juste, là, la qualité de vie du juste pour lui, là, ça honore son fils, hein. Fait que c'est très important. La puissance de l'ennemi est naturellement dirigée contre le dessein de Dieu. Donc, ça va amener les gens à avoir une vie déréglée. Mais, de dire que c'est pas si grave que ça. Tu sais, on n'est plus, pas être catholique que le pape. On a déjà entendu ça, hein. Il peut atteindre ses fins s'il favorise la diffusion d'une vérité qui passe sous silence les éléments bibliques vitaux ou qui établit une erreur positive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va regarder ça ensemble. Ça va, autrement dit, là, tu vas ajuster ce que la Bible dit à ce qui fait ton affaire. Le mariage, là, tu sais, c'est marqué où dans la Bible qu'il faut se marier, là? C'est marqué quelque part, ça? C'est marqué où dans la Bible qu'on n'a pas le droit de fumer? C'est marqué où, ça? C'est marqué où dans la Bible qu'on peut pas prendre de boisson? Jésus en prenait du vin à la table avec ses disciples. Comprenez-vous? Il va amener le chrétien à déformer ce que la Bible dit pour pouvoir l'ajuster à sa vie qu'il veut avoir lui-même en tant que croyant, en tant qu'homme. Donc, c'est très, très, très... C'est pour ça que je vous disais, marcher selon l'Esprit tant que c'est conforme à la vérité. Tant que c'est conforme à ce que la Bible dit, c'est correct. Mais lorsque là, on commence à remettre en question les choses qui sont dans la Bible, sous prétexte que ça a vieilli ou que ça a changé, c'est plus comme ça maintenant, pas sûr, moi, que l'Esprit va se révéler beaucoup là-dedans. La marche, il faut qu'elle soit conforme à ce que l'Écriture a dit. L'esprit embarquera pas d'un affaire qui est pas conforme à ce que les Écritures disent. S'il y a un esprit qui embarque là-dedans, ça sera pas le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit, ça. Faut faire attention. Il peut atteindre ses fins s'il favorise. Bon, ça je l'ai dit. Ainsi, il empêche le juste entendement de la source de bénédiction pourvue par Dieu. Cette confusion générale quant aux enseignements de la Bible sur le Saint-Esprit reflète notre histoire chrétienne. Si des doctrines sur l'Esprit de Dieu ne sont pas basées sur les Écritures, d'où viennent-elles? Ça vient d'où si c'est pas basé sur les Écritures? Ça vient de l'ennemi, hein? Donc, c'est important. Ce point-là, c'est important. Faut jamais négliger ça, là, parce qu'on a vu toutes sortes d'affaires, là. Il y en a en masse qui disent qu'ils marchent par l'Esprit, hein? Ils font du Ouija. Vous savez, c'est quoi du Ouija? Ils invoquent les esprits, puis ils posent des questions, puis ils se font répondre. Ils disent qu'ils marchent selon l'esprit des autres. Mais est-ce que c'est biblique? Pas biblique, hein? Pas biblique pour tout. Donc, c'est important de faire... Ouais, c'est ça. C'est ça que Satan vient de venir semer la confusion, parce qu'il sait que notre puissance est dans le Saint-Esprit. c'est dans la marche avec le Saint-Esprit. Fait que lui, il va venir semer de la confusion là-dedans. Avec toutes sortes d'esprits qui viennent pas de Dieu. Qui vont nous égarer. Qui sont là pour nous égarer de notre chemin. L'enseignement de la Bible au sujet de l'esprit peut être divisé en trois. Il y a l'esprit selon l'Ancien Testament. Il y a l'esprit selon les évangiles et les actes des apôtres, jusqu'à Actes 10, 43. Et l'esprit selon le reste des actes et des épîtres. Dans l'Ancien Testament, comme dans toutes les Écritures, l'esprit de Dieu est déclaré être une personne plutôt qu'une influence. Elle est révélée comme étant égale quant à la divinité, aux attributs et aux personnes de la Trinité divine. Ce ne fut qu'après la croix qu'il devint une présence habitant dans le cœur des hommes. On va voir ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Tu es d'accord, Marie? Marie est d'accord. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Ça, j'ai dit. J'ai-tu dit 17? En tout cas, c'est 7, si j'ai dit 17, là. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Dans l'Ancien Testament, il venait souvent sur des hommes. Il venait, l'Esprit, il venait, puis il repartait. Dans l'Ancien Testament, on va voir plusieurs versets, là. Accomplissant son dessein et le quittant une fois l'œuvre faite aussi librement qu'il était venu, puis il obéissait pas aux hommes. Il obéissait à Dieu. Quand l'Esprit venait, c'était de Dieu, c'était pas quelqu'un qui avait invoqué l'Esprit. Ça, on va le voir d'un verset. Dans Juges 13, 24, c'est dit, « La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter et à machaner d'âme, je sais pas comment ça se prononce, entre Tsoréa et Ectaol. Fait qu'on voit que l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Juges 14, 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Juges 15, 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Encore une fois, est-ce que ça dit que l'Esprit est en lui? Ça dit l'Esprit l'a saisi. Il vient sur lui. Juges 16, 20. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla dans son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. 1 Samuel 10, 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé entre un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » 1 Samuel 11, 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Pas nous autres, l'Esprit est en dedans nous autres. Mais l'Esprit, il va se révéler, la puissance du Saint-Esprit va se révéler. On va voir ça plus loin, là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se révèle d'une façon différente. Eux autres, l'Esprit venait, partait. Il vivait pas en dedans d'eux autres. Nous autres, l'Esprit est en dedans de nous. Et puis, 1 Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire que l'Esprit était sur David. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ah! Ouais. Parce qu'il avait mal fait. il avait désobéi. Il avait retiré son esprit, puis il avait envoyé un esprit de tourment. Il était tourmenté. Tu liras ça, tu vois. 1 Samuel 19:19-19:24. On le rapportait à Saül en disant, voici David est à Najoth, près de Ramon. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser, eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Ils ne revenaient pas, ils prophétisaient. Et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Mais là, il dit, voyez-le moi-même, tu sais. Fait que alors, Saül allait lui-même à Rama, arrivait à la grande citerne où, qui est à Sécou. Il demandait où sont Samuel et David. On lui dit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements. Il prophétisa aussi devant Samuel et se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc, on voyait que c'est quand l'Esprit venait et il saisissait, il n'y avait rien à faire, c'est l'Esprit qui prenait le contrôle. On voit dans ces textes que le mouvement de l'Esprit était souverain. Il n'était pas commandé par des hommes. Après ça, la deuxième période, c'était de l'Église, à partir de la Pentecôte, de l'Évangile jusqu'à... Il faut pas que je vende la mèche, là. Mais l'Évangile jusqu'à Actes 10:43. Qu'est-ce qu'il y a à Actes 10:43? On va voir ça tantôt. Ce n'est pas la Pentecôte, en passant. On peut qualifier cette période de période de transition ou de progression entre la période de l'Ancien Testament puis la dispensation de la grâce. Donc, il y avait une façon que l'Esprit se révélait dans l'Ancien Testament. Il y en a une maintenant. Puis c'est complètement différent. Bien, qu'il y a eu une transition entre les deux qui était entre l'Église puis Actes 10:43 qui était là chez Corneille. Je vais vous le dire, c'était chez Corneille. Là. On va le voir tantôt. La nouveauté que le Seigneur déclare que l'Esprit peut être obtenu en le demandant. C'est pas de même avant. Dans l'Ancien Testament, il ne demandait pas l'Esprit. Il venait, puis il ne le demandait pas. C'est lui qui était souverain, il venait quand il venait, puis il repartait. Mais là, le Seigneur, il déclare, c'était souverain. C'était pas des hommes. On voit ça dans Luc 11:13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ça, c'était nouveau. C'était nouveau, ça. Ça y était pas. C'était tellement nouveau qu'on peut même conclure qu'il ne l'avait jamais demandé. Il n'y a jamais personne qui avait demandé ça. Que l'auteur, selon l'auteur. On voit donc ici une progression par rapport à l'Ancien Testament. Durant la période des évangiles. Juste avant sa mort, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit qui est en nous, il va être avec nous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne l'a point vu, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. La prière du Fils ne pouvait rester sans réponse. Jésus qui priait son Père, là, Ça pouvait pas rester sans, c'est sûr que le Père exaucerait sa prière. Donc, l'Esprit qui était avec eux devait bientôt être en eux. C'était la différence. Après sa résurrection et juste avant son ascension, c'est ici que je veux vous faire le petit clin d'œil. On a dit tantôt que l'Esprit avait été donné, tout le monde dit que l'Esprit a été donné à Pentecôte. Dans Actes 2:42. Mais on voit quelque chose ici qui est différent. Il dit, après sa résurrection et juste avant son ascension, Jésus soufflait sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On voit ça dans Jean 20:22. J'en ai un petit peu parlé à l'autre. Je vous ai posé des questions à Carmen. Tu sais, Carmen elle a pris des notes. Puis elle a dit, ça prend de côte. Je dis, ouais. On va voir ça. Ils possédèrent l'Esprit en eux dès ce moment. Ça, c'est après sa résurrection, mais c'est avant la Pentecôte. OK? Là, il dit, regarde bien, ils possédèrent l'esprit en eux dès ce moment, mais le ministère de celui-ci n'était pas commencé. C'est là qu'est la nuance, parce qu'il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Souvenez-vous de ça? Il a dit, éloignez-vous pas parce que vous devez recevoir ce que le Père a promis. Donc, il y a deux choses. Moi, ce que je veux vous faire rendre compte en soir, là, il y a recevoir le Saint-Esprit, puis l'autre chose, c'est quoi qu'on va voir? On va l'avoir plus loin. Il y a le ministère. Il y a le ministère du Saint-Esprit. Tu peux avoir ton Saint-Esprit en toi, mais tu peux être un chrétien charnel qui vit dans le péché. Le Saint-Esprit ne commencera pas son ministère. Il ne peut pas commencer son ministère. Parce que ta vie honore pas Jésus-Christ, fait qu'il ne commence pas son ministère. Tu n'as pas une vie consacrée. Voyez-vous la différence? Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais le ministère du Saint-Esprit, c'est une autre affaire. On va voir ça. C'est le ministère du Saint-Esprit, il a commencé un peu plus loin. Acte 1-4, justement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Luc 24-49, ça dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Deux choses. Recevoir le Saint-Esprit, puis après ça, avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais ça ne veut pas automatiquement dire que tu vas avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ça dépend de ta marche avec le Seigneur. Donc, durant cette période, il y eut un temps où ils étaient exactement comme dans l'Ancien Testament. Ensuite, il leur a été accordé un nouveau privilège, celui de le demander. Ensuite, le Seigneur lui-même a prié pour qu'ils soient sur eux et en eux pour y demeurer. Ensuite, il souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis, il leur recommandait de ne pas s'éloigner avant qu'il ait été recouvert de la puissance du Saint-Esprit, le début de son ministère. Donc, on voit qu'il y a deux choses. Dans Actes 1-8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On voit encore ici que c'est la puissance qui parle de la puissance. Voici la révélation des conditions qui sont permanentes. Ce n'est pas assez que des serviteurs et des témoins aient reçu l'Esprit. Il doit survenir sur eux et les remplir. C'est ça la différence. C'est le fun d'avoir la nuance, hein? On n'avait jamais vu ça comme ça, quand on étudie ça comme ça. Trouvez-vous? Marie, parle. Dis quelque chose? Le jour de la Pentecôte, il y a eu trois choses qui sont arrivées. Qui furent accomplies le jour de la Pentecôte, concernant la relation de l'homme, de l'esprit de l'homme, de l'esprit aux hommes. Premièrement, l'esprit fit son entrée dans ce monde pour y habiter durant toute cette dispensation. Donc, l'esprit, autrement dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça marque, la Pentecôte? Le début de quoi? On va le voir, là. Mais ça marque le début de l'Église. Puis la dispensation de la grâce. L'ère de la grâce. L'ère de la grâce a fini quand? À l'enlèvement. Ouais, on finit à l'enlèvement. Donc, l'esprit fit son entrée dans ce monde pour y habiter durant toute cette dispensation. Il réside dans des temples et des habitations de pierre vivante. Jusqu'à ce que le dessein de Dieu soit accompli. Éphésiens 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est aussi parlé du croyant individuel comme du temple du Saint-Esprit en Corinthiens 6:19. Je ne le répéterai pas, vous le savez déjà. Deuxième chose. La Pentecôte a marqué le commencement de la formation d'un nouveau corps, un organisme qui, dans sa relation avec Christ, est appelé l'Église, qui est son corps. Ça a commencé là. Éphésiens 1:22, il l'a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Christ a promis qu'il le bâtirait lui-même dans Matthieu 16:18, Et moi, j'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première mention du mot église est dans Actes 2:47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Si tu dis, et Mario ajoutait à l'église? Et Hélène ajoutait à l'église? Et JP ajoute à l'Église? Non. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Fait que quand il met quelqu'un devant nous autres, ou qu'on lui annonce le salut, c'est lui qui l'a fait. Mais il nous a juste utilisé dans son plan. Par l'Esprit, il nous a utilisé. C'est le même. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse nous utiliser dans son plan. Pour les âmes. Gagner des âmes. Acte 5:14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Acte 11:24, car c'était un jeune homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. On voit que ce n'était pas une entreprise humaine, mais c'est le Seigneur lui-même qui ajoutait à son Église, qui est son corps, et le baptême de l'Esprit. 1 Corinthiens 12 et 13, le verset que beaucoup de gens utilisent dans des différentes doctrines. Car c'est comme le corps est un et a plusieurs membres. On a-tu compris ça? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit grec, soit esclave, soit libre, où nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit, du même esprit, un seul corps, une seule église. La Pentecôte inclut le commencement du ministère de l'Esprit de Dieu qui est accompli chaque fois qu'une âme est sauvée. Le but, c'est ça. Troisièmement, la troisième chose qui est arrivée à Pentecôte, Les vies qui étaient préparées furent remplies du Saint-Esprit, et l'Esprit vint sur elles pour les revêtir de puissance, comme il avait été promis. C'est le début du ministère du Saint-Esprit, habitant dans le croyant, qui fut révélé, spécialement dans le cas de Pierre. Et ça, c'est frappant. Vous voulez aller lire ça, là? Pierre, là, il venait de renier le Seigneur trois fois devant une petite servante. Une petite servante de rien. Qui est allé lui poser des questions. Non, je ne connais pas. Il reçoit le Saint-Esprit, là, puis après, là, tout de suite après, il accuse des scribes, puis il dit, vous l'avez crucifié, puis tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Le gars qui était tout gêné avant, il reçoit le Saint-Esprit, puis après ça, il se lève debout, puis il se met, et il a plus peur de rien, là, parce que c'est l'Esprit qui est en lui, tu sais. Comme ça qu'il dit, vous avez reçu un esprit de force, non de timidité. Et puis il se met à prêcher, là, il y a eu un changement, là, tu sais, complètement. Mais c'est l'Esprit qui est venu à Pentecôte. Puis là, il se met à accuser les chefs des nations d'être coupables du meurtre du prince de la vie, tu sais. Il s'est passé quelque chose. Ça fait que c'est vraiment l'Esprit qui vient nous fortifier dans notre ministère. La puissance de son témoignage se manifeste aussi dans le salut des 3 000 âmes. Parce que ce jour-là, il y a 3 000 âmes. Ainsi, le Saint-Esprit est entré dans notre dispensation, celle de la grâce, pour y demeurer pendant toute la dispensation, dans le baptême de beaucoup de membres, pour les placer en Christ, et aussi dans le revêtement de puissance de ceux dont la vie a été préparée pour l'œuvre du témoignage au Christ. Saint-Esprit devait être reçu par la foi en Jésus-Christ pour le salut. Cette condition finale a commencé avec la prédication de l'Évangile aux gentils dans la maison de Corneille. Ça a commencé là. Puis là, ça vient de faire toutes les doctrines qu'il y en a qui disent qu'il faut que tu fasses ci pour avoir le Saint-Esprit. Si t'as pas le Saint-Esprit, si tu parles pas en langue, t'as pas le Saint-Esprit. Si tu fais pas ci, t'as pas ça. On va le voir dans la maison. Ouais, il y en a qui disent ça, là. On va le voir, c'est la prochaine. Je suis en train de vous mettre là à la bouche, là. Parce que dans la maison de Corneille, c'est dit que Pierre était en train de prêcher. Puis pendant qu'il prêchait, l'Esprit est descendu sur eux autres. Ça dit lorsqu'ils ont cru. Lorsqu'ils ont cru. C'est la seule chose, dans la Bible, c'est la seule chose qui dit qui est nécessaire pour recevoir l'Esprit, c'est quand tu as cru. Et puis, Il s'est déroulé une période de 8 ans entre la Pentecôte puis l'événement dans lequel on va vous parler, là, celle de Corneille. Donc, entre la Pentecôte et Corneille, c'était la période où c'est que l'Évangile est annoncé aux Juifs. Et puis, troisièmement, l'Esprit après le reste des actes et des Écritures. Et puis, c'est là que les relations définitives et permanentes de l'Esprit avec l'homme dans cette dispensation sont révélées sur 7 ministères. 2 d'entre eux sont pour le monde inconverti, 4 envers tous les croyants et 1 envers tous les croyants qui entrent dans un juste rapport avec Dieu. Donc, on voit que le ministère, là, il y a plusieurs selon les Écritures. Il y a 7 ministères du Saint-Esprit. Il y a 2 ministères envers les inconvertis. Il y a 4 ministères envers les croyants. Puis il y a 1 ministère envers l'homme spirituel. Fait que voulez-vous savoir? C'est quoi? Ben, ça va être la prochaine fois. C'est comme le capitaine bonhomme, tu sais. Fait qu'on va juste prier, on va remettre ça au Seigneur, puis on va faire un appel en même temps, parce que des fois qu'il y a quelqu'un qui écouterait la cassette, pas la cassette, mais le CD. Je sais jamais où ça va se ramasser, ça. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Puis, on veut vraiment apprendre à marcher avec cet esprit-là, Seigneur. Puis on veut vraiment que tu fasses ça dans nos vies. Que tu viennes nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Puis que tu viennes le faire toi-même, parce que nous autres, par nous-mêmes, on peut rien faire. Mais si toi, on te demande de le faire, tu peux le faire dans nos vies. Et puis la seule chose qui t'empêche de le faire, c'est nous-mêmes, c'est nous autres, avec notre libre arbitre. Fait qu'on te le demande, on prie pour que tu le fasses dans nos vies, pour qu'on puisse être des gens qui marchent selon l'esprit, selon ton esprit, Seigneur. Et puis, si tu as entendu cette prédication aujourd'hui, puis tu veux recevoir toi aussi l'esprit, la Bible dit que, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1,12, ça dit, à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ben, 2 choses qu'on voit, on dit que lorsque tu crois au Fils de Dieu et puis que tu le reçois dans ton cœur, tu vas recevoir ce cadeau gratuit de la vie éternelle. Mais c'est sûr que si tu l'étudies cette prière comme quand tu lis un journal, tu recevras pas tous ces cadeaux. Mais Dieu regarde à ton cœur, il veut ton cœur. Et puis, si vraiment tu fais cette prière dans ton cœur et puis tu es sincère, et puis tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur et de te sauver, mais la Bible dit qu'aujourd'hui même tu deviendras un enfant de Dieu avec toutes les bénédictions qui vont avec. Et puis tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va pouvoir te guider le reste de ta vie. Et puis je vais t'inviter à faire cette prière avec moi dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur, je te prie pour les personnes qui auraient pu faire cette prière pour vraiment que tu puisses les toucher puissamment puis de ton amour, puis qu'ils ne puissent jamais douter de leur salut et puis révèle-toi puissamment à eux, Seigneur, pour le nom de ton Fils Jésus. Amen.